Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi.
Bonsoir tout le monde. Jésus va demander à Pierre, à trois reprises, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre va répondre, oui Seigneur, je t'aime. Et à trois reprises. Et vous savez, c'est la question qui nous est aussi posée. Église, m'aimes-tu? Église dans son ensemble, mais aussi à titre personnel, est-ce qu'on aime Dieu? Parce que l'amour va dicter notre comportement, l'amour va dicter nos actions, l'amour va dicter notre cœur. Et David, dans ce beau passage qu'on vient de lire, va dire « Je désire ardemment habiter dans la maison du Seigneur ». S'il disait ça, c'est qu'il y avait quelque chose de particulier dans la maison du Seigneur. Amen. Alors, bienvenue encore ce soir à chacun d'entre vous. On est toujours dans cette série sur la lumière et nous poursuivons ensemble. Et ce soir, le titre du message, c'est « La lumière dans la tempête ». La lumière dans la tempête. Et on le répète depuis quelque temps, le message de la lumière, c'est un encouragement pour chaque croyant que nous sommes ce soir à être des lumières, à être des phares, à éclairer, à briller et à prendre conscience, parce que quelquefois, on ne prend pas forcément conscience que nous sommes une lumière. Mais tu es une lumière, je suis une lumière, et ensemble, nous éclairons. Dis-le à ton voisin, tu es une lumière. Dites-le avec conviction quand même. Vous vous souvenez, je vais mettre ça de côté tout de suite, à l'école, on avait toujours quelquefois cette réflexion, ah ben celui-là, ce n'est pas une lumière. Mais vous, ce soir, je déclare sur votre vie que vous êtes des lumières. Amen. Alors, je ne sais pas si vous vous intéressez à la navigation, si vous regardez quelquefois les phares. Il y a de beaux phares en France. Il y en a aussi quelques-uns à l'île de la Réunion. Mais vous savez qu'un phare a pour objectif de guider. Et de guider surtout la nuit, les navires. Parce que s'il n'y a pas de phare la nuit, les navires, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont se fracasser, ils vont se tromper de route et ils vont toucher la côte. Et un phare, c'est important. Et c'est vrai qu'en journée, on ne fait pas forcément attention au phare. On le trouve beau, mais voilà, des fois on passe à côté, on ne le voit pas. Mais la nuit, particulièrement, le phare est vraiment nécessaire et il a un rôle primordial, le rôle de guider, le rôle d'être un repère, le rôle de montrer le chemin. Sinon, on va s'échouer et on fait fausse route. Et cela nous montre qu'au final, l'homme a besoin de lumière. Si on éteint la lumière là, ce soir, la première chose qu'on va faire quand vous arrivez dans le noir, c'est la première chose que vous faites, c'est de tâtonner et de chercher la lumière. Et si vous n'avez pas de lumière, vous prenez votre téléphone de votre poche et vous allumez votre téléphone, c'est ce que vous faites. Parce qu'on a besoin de la lumière pour se diriger. La lumière, c'est la vie. Et bien évidemment, vous me direz, Jimmy, aujourd'hui, les bateaux ne se dirigent plus avec des phares, mais ils ont des GPS, bien évidemment. Mais gardons à l'esprit quand même qu'ils ont besoin d'un repère, qu'ils ont besoin d'un instrument, qu'ils ont besoin d'une aide pour pouvoir arriver à bon port. Et l'homme, sans Dieu, sans la lumière de Dieu, est dans les ténèbres, même s'il marche en plein jour. On peut marcher en plein jour, mais totalement dans les ténèbres et être sans repère. On peut lire ensemble ce premier verset dans Éphésiens 5:8 qui va nous dire, je vais le lire pour vous, « Autrefois ». Ça, c'était le passé, c'était avant, ça s'est terminé autrefois. Vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut qu'on prenne conscience. On est la lumière. Maintenant, vous êtes la lumière dans le Seigneur. Et la parole de Dieu va dire, marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Pasteur Charles nous partageait la semaine dernière ce message sur le mouvement. Et là, ça nous parle du mouvement. On doit marcher comme des enfants de lumière. Alors l'homme qui ne connaît pas Dieu, je le disais, c'est un homme qui est livré à lui-même. Quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, l'homme et la femme bien évidemment, livré à lui-même, livré à ses pensées, livré à ses schémas de pensée. Et l'homme va à droite et à gauche en fonction de ce qu'il peut passer, en fonction aussi des flots de la mer. Mais Dieu, et c'est la bonne nouvelle, a pitié de l'homme. Et vous savez que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Christ. C'est un verset que nous citons régulièrement. Je lisais le passage de Jonas de ces derniers temps et il y avait un passage qui m'avait marqué. Et j'aimerais vous montrer à travers juste ce passage en introduction le cœur de Dieu pour l'homme. que Dieu s'intéresse à l'homme. Alors que vous vous souvenez que Dieu avait envoyé Jonas à Ninive. Et Jonas, faisant à sa tête, est parti ailleurs. Il est parti à Tarsis. Et il s'est retrouvé donc dans le ventre d'un poisson, etc. Vous lirez Jonas à la maison. Mais moi, j'aimerais vous attirer l'attention ce soir sur Jonas 4, 11, qui va dire, et voilà le cœur de Dieu, en fait. Et je trouve ça magnifique. Et moi, parce que Jonas, il avait un coup de blues à un moment donné, et Dieu a cette conversation avec Jonas, il va lui dire, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, Jonas, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Vous voyez ce que Dieu dit des hommes, et on voit aussi ça dans notre quotidien, des personnes dans le même cas, des personnes qui sont sans repère, des personnes qui ne savent pas se diriger, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Mais Dieu est un Dieu de compassion, Dieu est un Dieu de miséricorde, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un bon Père, et Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de Christ. Et vous savez, nous devons être, et on le dit, on le martèle depuis quelques semaines, cette lumière qui brille. Vous savez que Dieu, et Pascal l'avait dit il y a quelques temps de cela, nous sommes ouvriers avec Christ. Et Dieu nous utilise, chacun d'entre nous, nous sommes un instrument entre la main de Dieu pour amener justement cette lumière dans le monde. Nous sommes la lumière du monde. Vous lirez dans Matthieu 5, 14. Premier point que j'aimerais aborder avec vous et vous ramener ce soir dans un lieu, on va aller en Galilée ce soir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la Galilée, moi pas encore, j'espère y aller un jour, en Israël, mais on va aller en Galilée. Et le titre, le premier point du moins que j'aimerais aborder avec vous, c'est quand les crises amènent à la foi en Jésus. Quand les crises amènent à la foi en Jésus. Alors on va lire ensemble, et je vous donnerai le contexte après, dans Marc 4, 35. On peut le lire ensemble, Jésus apaise une tempête. Et je vais dire le titre du message tout à l'heure, la lumière dans la tempête. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent. Ils lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Voilà le contexte de Marc. Alors nous sommes quand même dans une situation de vie totalement normale et ordinaire. La journée est terminée, Jésus a enseigné tout au long de la journée. Et il demande aux disciples, bon, allons de l'autre bord, de l'autre côté, on va prendre le bateau ensemble. Il faut se rappeler quand même que parmi ses disciples, il y en a quelques-uns qui étaient des pêcheurs professionnels, des marins professionnels, et qui connaissaient quand même parfaitement le métier et parfaitement la mer. Le lac de Galilée, d'ailleurs, certains l'appellent le lac de Tibériade, c'est la même chose. C'est un lac qu'ils connaissent aussi parfaitement. C'est leur lieu de travail pour certains, ça a été leur lieu de travail. Donc ils ont navigué sur ce lac, ils ont pêché pas mal de poissons, ils ont rencontré leurs camarades pêcheurs. Voilà, ils ont fait leur vie sur ce lac. Mais Jésus connaissait aussi ce lac parce que c'est sur ce lac qu'il a appelé les premiers disciples. Donc c'était un endroit connu, un endroit qui n'était pas singulier et particulier pour les disciples. Et personne n'a dit à Jésus, écoute Jésus, là on va prendre, c'est le soir, on va prendre la mer, c'est dangereux, il risque d'y avoir une tempête, ça risque d'être compliqué, il vaut mieux pas qu'on y aille. Non, tout était calme, tranquille, le calme plat. Ils prennent le bateau, je me mets à la place des disciples, Jésus dort, quelques-uns discutent, il y a celui qui, je ne sais pas si on dit piloter un bateau, diriger un bateau, voilà, et puis ben, les autres discutent, ben, peut-être qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée, le message était vraiment bon, on n'a pas forcément compris ce qu'il a dit, qui veut poser une question à Jésus, non, toi pose, moi je poserai plus tard, peut-être, bon, vous savez, les disciples avaient ce genre de questions, peut-être qu'ils se disaient, ben, pourquoi il nous demande d'aller à l'autre bord, C'est possible aussi qu'ils se posent ce genre de questions. Mais voilà, ils faisaient le chemin tranquillement. Rien d'alarmant, Jésus se reposait après cette journée difficile. Mais tout d'un coup, nous dit la Bible, il y a eu un grand tourbillon. Un grand tourbillon. Une crise vient casser ce schéma de vie tranquille. Tout ne se passe pas comme prévu, comme programmé pour aller à l'autre bord. Et les disciples sont en péril. Les marins sont en péril. Ils avaient certainement vécu, si on pense à l'histoire, ils avaient certainement vécu sur ce lac et aussi dans leur vie des tempêtes. Mais des tempêtes aussi soudaines et aussi brutales que celle-là, pas forcément. Et leur vie était réellement en danger. Ils savaient qu'à cet instant, s'ils n'appelaient pas Jésus, ça aurait été donc la catastrophe. La tranquillité de départ a laissé place au désespoir. Les rires, on imagine si certains plaisantaient, c'était changé en tristesse, en angoisse. L'avenir pour eux était sombre et même atteindre de l'autre bord était plus possible. C'était inatteignable, l'autre bord. Et l'eau, nous dit la parole de Dieu, commençait aussi à entrer dans le bateau. Même leur expérience, parce que c'était des gens d'expérience, des gens qui connaissaient la mer, même leur expérience du métier ne pouvait leur sauver. Et le seul secours, c'était donc Jésus. L'arrivée soudaine de cette tempête, de ce grand tourbillon, a mis tout le monde dans la panique, sauf Jésus. Et c'est ce qui peut arriver également dans notre vie. Lorsque les tempêtes arrivent de façon soudaine, quelquefois, ça peut être la panique générale. Vous savez, les crises, généralement, ils ne vous disent pas « Attention, Jimmy, j'arrive dans 2 semaines » ou « J'arrive dans 3 mois » ou « L'année prochaine, tu passes par une crise ». Non, la crise arrive généralement subitement, quand on n'attend pas la crise arriver. La Bible nous dit ce soir-là, ce même jour, il y a eu donc cette crise. Alors elles arrivent, alors qu'on pense, comme les disciples, on est sur le lac, tout est maîtrisé, tout est carré, je connais le lieu, je connais mon métier, je connais l'endroit, et je suis dans mon habitude de vie, et je me projette, et c'est normal, vers d'autres projets, vers d'autres buts, vers d'autres bords, vers d'autres saisons, vers d'autres lieux. Et c'est ce qui peut arriver. Et l'homme, quelquefois, c'est ce qu'on fait. C'est normal aussi qu'on puisse penser à ça. Et Jacques 4, 13 à 15 va nous dire, voilà ce que la Bible nous dit dans Jacques 4, 13, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous, qui ne savez pas ce qui arrivera demain. » Et c'est vrai, on ne sait pas ce qui arrivera demain. « Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. » Et combien de fois on peut entendre ce genre de discours ? Moi, demain, je vais ici, je vais faire ça, je vais aller dans tel endroit. Mais la parole de Dieu n'est pas contre ces choses qu'on puisse se projeter. Mais la Bible nous dit que nous devons nous baser sur Dieu. Si Dieu le veut, toujours nous référer à Dieu, le centre de notre vie. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Et l'homme, quelquefois, dans ses habitudes, dans son quotidien, avance, traverse, et on peut oublier Dieu. Mais la crise nous ramène souvent à bon port, comme on dit. Vous savez, les crises sont parfois le moyen, et peut-être qu'on l'a vécu à titre personnel, sont quelquefois le moyen de nous amener ou de nous ramener à Dieu, quelquefois. On a lu tout à l'heure l'exemple de Jonas. Vous vous souvenez, Jonas ? Alors qu'on l'envoyait, Dieu l'envoyait à Ninive, il allait à Tarsis. Et vous lirez Jonas, et Jonas, alors qu'il était dans le ventre du poisson, dans la détresse, dans l'abîme, au fond, il y a cette phrase qui est dit dans la Bible, « Je me suis souvenu de l'Éternel. » Je me suis souvenu de l'Éternel. Le fils prodigue, alors qu'il était dans le manque, s'est souvenu de la maison de son père. Vous voyez que la crise, le manque, nous ramène à bon port. Le sentiment de danger, les disciples étaient dans ce sentiment de danger, mais le sentiment de danger le plus extrême amène les hommes, même les hommes les plus durs, à prier et à revenir et à se tourner vers Dieu. Et ça, c'est vrai. Et n'est-ce pas, si on parle le langage de vérité, de dire que la crise nous ramène à Dieu, lorsqu'on passe par des situations difficiles, des situations où on n'a pas de secours, des situations compliquées, qu'est-ce qu'on fait? L'une des premières choses, on crie à Dieu. On crie à Dieu. Je disais au début du message que Dieu est un bon père. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre. Et l'homme a besoin quelquefois de crise. Je ne sais pas que la crise, on veut la crise, mais quelquefois la crise est nécessaire. Parce que sans Dieu, on est perdu. Et l'homme sans Dieu n'a plus de repères. Il n'a plus de sens, il ne sait pas où se diriger, il ne sait pas quoi faire, on a besoin de Dieu. Et la Bible est remplie d'expériences, vous lisez votre Bible, est remplie d'expériences d'hommes et de femmes qui ont fait appel à Dieu alors qu'ils passaient par des moments difficiles, alors qu'ils passaient par des moments de crise. La peur des disciples les a amenés à crier à Jésus. La peur les a amenés à réveiller Jésus. La peur les a amenés à solliciter Jésus. Et le monde autour de nous traverse des crises. L'Église traverse des crises. Peut-être qu'à titre personnel, nous traversons des crises. Alors que nous naviguons sur le lac de Galilée, sur le lac de Tibériade, qui peut représenter notre vie en général, on peut avoir quelquefois des crises. Certaines crises peuvent être familiales, certaines peuvent être professionnelles, relationnelles, crises sentimentales, des crises spirituelles, financières, relationnelles, l'insécurité, la peur de l'avenir. On passe quelquefois par différents types de crises. Et quand on regarde le monde autour de nous, ils ne savent plus quoi faire. Le monde cherche un repère. Le monde cherche quoi faire. Et c'est justement là que la lumière doit éclairer. Vous savez, je regarde régulièrement le journal, peut-être comme certains d'entre vous, et je me dis, Seigneur, ouais, c'est dramatique, on entend chaque semaine, quelqu'un s'est jeté du pont. Un jeune s'est jeté du pont. Quelqu'un s'est suicidé de telle ou telle manière. Et le monde a besoin de la lumière. Le monde a besoin de trouver Christ. Et nous sommes, nous, en tant que chrétiens, justement, ces lumières. Et c'est dans ce chaos le plus total que nous devons briller. Je disais tout à l'heure, au début du message, que le phare, il est utile quand il fait noir. C'est là qu'on va regarder la lumière. C'est là qu'on va regarder le phare. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous devons être des repères. Et c'est le deuxième point que j'aborderai tout à l'heure. On a dans la Bible l'exemple de Cana. Vous vous souvenez de Cana? Le premier miracle de Jésus, c'était aux noces de Cana, c'était lors d'un mariage. La fête battait son plein. Voilà, c'était lors d'une fête, c'était un mariage, ce n'est pas rien. Et tout allait pour le mieux. Et à un moment donné, il y a eu une crise. Il n'y avait plus de vin. Il faut se remettre aussi dans l'époque. Hein. Lorsqu'il manquait du vin, c'était la honte pour la famille. Si je mets ça dans le langage aujourd'hui, chez un réunionnais, si je me permets, c'est comme si j'invite des gens et à un moment donné, j'ai plus de riz. Vous voyez, à un moment donné, il n'y a plus de riz. Là, c'est bien difficile. Ouais, c'est la honte, surtout s'il y a un festin, etc. Mais là, il manquait de vin. Et ils se sont... Marie était là, tournée vers Marie. Et Marie va dire, faites tout ce qu'il vous dira. On va lire ensemble ce qu'il nous dit la Bible dans Jean 2, 1. Trois jours après, il y eut les noces de Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Il lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue, ce n'est pas encore mon temps. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Vous voyez que le manque, la crise, les a amenés à se tourner et à dépendre de Jésus. Notre fin, F-I-N, notre extrémité, lorsqu'on n'a plus de solution, lorsqu'il n'y a plus rien, lorsqu'on est face au mur, on n'a plus de plan B, c'est l'opportunité pour Dieu de nous sauver. C'est l'opportunité pour Dieu de faire le miracle. Il n'y avait plus de solution dans ces noces de Cana. C'est où Dieu agissait, où c'était terminé. Et Dieu a agi. On sait le Dieu du miracle, le Dieu qui est grand, le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu qui est omnipotent. Alors je le disais, le deuxième point, c'est nous sommes des points de repère. Alors, je ne sais pas si vous voyez comme un point de repère, mais vous êtes la lumière du monde là où vous êtes, dans votre environnement. Jésus était dans la barque avec les disciples. Et c'est important de le dire, il n'était pas ailleurs, il était dans la barque. Mais cela n'a pas empêché, et vous l'aurez noté, que les disciples traversent par une épreuve, traversent une crise. Et vous savez, le fait d'être dans la volonté de Dieu ne nous dispense pas d'épreuves. Je discutais avec un jeune cette semaine, il me dit, moi je suis dispensé de natation. Mais dans la vie chrétienne, le fait d'obéir, le fait d'être dans la volonté de Dieu ne nous dispense pas d'épreuves. Les disciples étaient bien dans la volonté de Dieu. C'est Jésus qui disait, passons de l'autre bord. Paul était dans la volonté de Dieu. Et pourtant, combien Paul a eu de tribulations. Mais la différence avec le monde, c'est que Emmanuel, Dieu, est avec nous. Nous ne traversons pas les crises tout seuls. Dieu est avec nous. Les disciples n'ont pas traversé la crise tout seuls. Dieu était avec eux. Mais combien de personnes ne connaissent même pas l'existence de Dieu ? Combien ne savent même pas qu'un sauveur existe ? Combien cherchent de l'aide sans trouver de l'aide ? Et c'est là que l'Église que nous sommes, individuellement et collectivement, doit briller. Nous devons être ces lumières qui brillent et qui amènent la réponse au monde. Nous devons être visibles. Nous ne devons pas nous cacher, parce que Charles parlait de cette lampe qu'on prend, qui est allumée et qu'on cache sous le boisseau. Alors que le monde passe par une crise, en tant que chrétien, on doit être visible, plus que jamais visible. Justement pour aider, pour être ce repère, pour montrer la voie. Nous devons éclairer. Jésus est la réponse. Jésus est la solution. Et vous avez vu, parlons de Jésus justement, comment il a agi. Alors que les disciples lui disent, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Il y a des versions qui vont dire, ne t'inquiètes-tu pas, tu ne prends pas soin de nous en fait, Jésus. On est en train de périr et tu ne fais rien, tu dors. Quelquefois, ça peut nous arriver aussi de poser cette question à Dieu. Seigneur, on passe par la crise, par les épreuves, c'est difficile, mais où es-tu, Seigneur ? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur ? Est-ce que tu n'entends pas ? Tu dors ? Ça peut arriver qu'on se pose ce genre de questions. Mais la Bible nous dit que Jésus s'est réveillé, il a pris les choses en main, il a menacé le vent et la mer, et il a les éléments naturels, la création s'est tue devant le maître de la création. Les disciples étaient « waouh ». Jamais il n'avait vu une tempête aussi énorme être stoppée en si peu de temps. Et Jésus est capable de faire le miracle. Là où l'homme a ses limites, là où l'homme ne peut plus agir, Dieu est capable d'agir. Il a révélé toute sa puissance et son autorité. Vous savez, il n'a pas parlé à un homme, mais il a parlé à la nature, il a parlé à la création. Et ça, c'est irrationnel aux yeux de l'homme. Vous vous souvenez de cette parole de Jean 7, 46 qui va dire, alors que les soldats sont appelés à arrêter Jésus, ils vont revenir et vont dire, mais jamais, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et nous, on peut dire, mais jamais homme n'a agi comme cet homme. Et Dieu est celui qui agit. Daniel disait lors de la prière, Dieu est le même, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il peut encore agir. Alors devant les disciples, lorsqu'il a fait ça, les disciples se sont exclamés, mais qui est donc celui-ci ? C'est le troisième point. Qui est donc celui-ci ? C'est qui lui ? Voilà la question qui a été posée. La crise a révélé la peur des disciples. On peut comprendre. Mais la crise a révélé aussi qui est Jésus. La crise a révélé la puissance de Dieu. La crise a révélé le maître de l'univers. Les disciples ont eu un aperçu de qui est Jésus et ce qu'il est capable de faire. Et Dieu est capable. Le prince de la paix, dont je disais tout à l'heure, Emmanuel, Dieu avec nous, était avec eux. Et vous savez que l'une des premières choses qui a été manifestée, c'est la paix, le calme et le repos. Pourtant, Jésus vivait la même tempête que les disciples. Je me pose encore la question, mais comment il a fait pour dormir ? Parce que la Bible nous dit que les flots remplissaient le bateau. Ça me dépasse. Mais Jésus dormait. Lui, il n'y avait pas de turbulence, pas de panique. Et la bonne nouvelle, l'homme peut être paniqué, mais il n'y a pas de panique au ciel. Il n'y a pas de panique au ciel. Tout est sous contrôle, il n'y a aucun problème. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'histoire, tu vois dans cette histoire de Marc, mais la Bible nous dit qu'il y avait d'autres barques avec lui. Il y avait d'autres barques qui naviguaient sur ce lac de Galilée. Et eux aussi, ils ont vécu la tempête. La tempête est arrivée, donc eux aussi, ils ont vécu cette tempête. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'ils ont aussi été témoins de la puissance de Dieu. Eux aussi, alors qu'ils se trouvaient sur ce lac, ils ont été sauvés grâce à l'intervention de Jésus. Or, souvent, on parle de dommages collatéraux, mais dans ce cas précis, on peut parler de miracles collatéraux. Eux aussi, ils ont été impactés. Et vous savez que quelquefois, une action de notre part, une action d'évangélisation, une action pour aider une famille, une action pour aider un individu peut avoir un impact qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre conception. Alors ne négligeons pas que nous sommes des lumières, que nous sommes des repères pour cette société. Jésus était dans la barque. Vous êtes d'accord avec moi? Il est assis à la droite de Dieu aujourd'hui. Mais son esprit vit en chacun de nous. L'esprit de Dieu vit en chacun de nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu, on l'a parlé de ça dans Actes 1-8, « Mais vous recevrez une puissance, ce Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et vous serez mes témoins. Et j'aime bien ce passage de Luc 4-18, oui, qu'on va lire ensemble, qui dit, regardez ce que la parole de Dieu nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur nous pousse à l'action. Et l'Esprit du Seigneur, lorsqu'on le lit là, ce sont des verbes d'action. Voilà ce que l'Esprit du Seigneur fait dans notre vie, pour annoncer une bonne nouvelle. Pas une mauvaise nouvelle, pour annoncer une bonne nouvelle. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies. Et voilà ce que l'Esprit de Dieu nous pousse à faire. Alors que nous sommes dans ce monde, nous sommes appelés à publier une année de grâce. Nous sommes appelés à guérir. Nous sommes appelés à proclamer la bonne nouvelle. Voilà ce qu'on est pour ce quoi on est appelé. Le psaume 107 va nous dire, et le psaume 107 a pour thème central le fait que Dieu apporte la délivrance à ceux et celles qui crient à lui, uniquement à cause de sa bonté. Uniquement à cause de sa bonté. On va lire ensemble le psaume 107, le verset 23 à 30, qui nous dit, et ça peut nous rappeler l'histoire des disciples, dans Marc 4, 35, qu'on vient de lire, « Ceux qui étaient descendus sur la mer des navires, dans des navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. » Toute leur habileté était anéantie. Je parlais des disciples tout à l'heure, qui pour certains qui étaient des pêcheurs, ils avaient cette habileté, cette connaissance de la mer, mais qui à un moment donné n'a servi à strictement à rien parce qu'ils étaient dans cette crise. Et là, la Bible nous dit que toute leur habileté était anéantie. L'homme, quelquefois, peut penser qu'il est habile, qu'il maîtrise la situation, qu'il maîtrise la crise, qu'il gère. Mais voilà ce que nous dit la Bible. « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. » Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Si nous voulons arriver au port désiré, c'est l'Éternel qui conduit. C'est entre les mains de l'Éternel que nous devons mettre nos vies. Si nous voulons arriver au port désiré. Vous savez, les disciples dans ce passage de Marc ont eu peur, mais vraiment peur. Et on peut se mettre à leur place également. Si on était à leur place, on aurait eu, certainement eu très peur. Il est arrivé il y a quelques années de cela, ça passe, le temps. Sabine et moi-même, on était à Madagascar pour un voyage humanitaire et à un moment donné, on a pris le bateau de Fenerive, pour ceux qui connaissent Fenerive à Madagascar, et on est allé à l'île Sainte-Marie. La mission était terminée, on s'est dit qu'on allait prendre quelques jours de vacances. Et on se disait, pourquoi ne pas prendre le bateau ? Quelqu'un nous disait, bon, il y a une vedette, vous pouvez prendre la vedette, et la vedette, en deux heures et demie maximum, vous pouvez y arriver. Dans ma tête, une vedette, c'est un bateau avec un volant, voilà, avec des gros moteurs, on y va, et voilà. Et quand j'ai vu la tête de la vedette, ce n'était pas une vedette. C'était loin d'une vedette. Et les bacs d'essence étaient ouverts, il y avait des tuyaux comme ça, mais on était sur un lac au départ et on se disait, ben écoutez, c'est pas grave, c'est tranquille. Et je m'amusais à filmer au départ, je trouvais ça exotique et intéressant, voilà, sans plus. Mais au bout de 15 minutes, on est rentré en pleine mer et mon Dieu, que ça a été compliqué. Et c'est la première fois, et sérieusement, on croyait qu'on allait mourir. On a demandé à ce qu'on fasse demi-tour, mais la personne qui conduisait le bateau ne voulait pas, pour des croyances, en fait. Et on a pensé plein de fois qu'on allait mourir. On était en haut de la mer, comme ça, on descendait dans les vagues, on remontait, et voilà. Et du coup, on avait vraiment peur. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, « Seigneur, je dois te servir. Je te promets que... » Vous voyez, dans leur détresse, « Seigneur. » Et on a pris 5h30 pour arriver à bon port. Et c'était vraiment une grâce de Dieu. La première chose qu'on a pris, qu'on est arrivé à l'île Sainte-Marie, on a dit aux gars, « Gardez l'argent et vos bateaux. » On a repris l'avion. On a repris l'avion. Dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel. Et c'est fou que dans la détresse, mais c'est normal aussi dans la détresse, mais les promesses qu'on fait à Dieu. Et ça me faisait penser aux disciples. Et ça me faisait penser aux disciples lorsque cette histoire était là. Et les disciples vont dire, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Tu ne prends pas soin de nous, en fait, Seigneur. » Pierre faisait partie de ses disciples. Et vous savez ce que Pierre va dire quelques temps plus tard ? Voilà ce que Pierre va dire dans 1 Pierre 5,7. Lui qui a vécu cette expérience, lui qui a côtoyé le maître, lui qui était près de Jésus, il va dire, déchargez-vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà le message que nous devons donner au monde. Il y a une seule solution. Il y a une seule réponse. Et cette réponse, c'est Jésus. Décharge-toi sur lui. Tes problèmes, tes soucis, la tempête fait rage, c'est clair, mais décharge-toi sur Jésus. Pouvons penser quelquefois, et je le disais tout à l'heure, que Dieu dort, que Jésus dort, qu'il sommeille, qu'il n'entend pas nos prières, qu'on traverse la crise tout seul et qu'il ferme les yeux, qu'il ne se préoccupe pas de nous. Mais j'aime bien ce psaume 121 et que je vous invite à lire avec moi. Il va dire ce psaume, alors qu'on traverse la tempête, « Je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers le phare. » Vous savez, le phare, il conduit tous les bateaux. Il ne choisit pas le bateau en fonction de sa grandeur, de sa notoriété, de qui il est, pas qui il est. Le phare, il guide tous ceux et toutes celles qui regardent à lui. « Je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers Dieu. D'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, celui qui maîtrise les événements de ta vie et celui qui maîtrise également les éléments. On l'a vu tout à l'heure. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est un psaume qui est magnifique. Mais j'aimerais juste souligner, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Celui qui garde Israël. Nous avons fait cette alliance avec Dieu. Celui qui garde Israël. Et nous sommes l'Israël de Dieu. Il est important aussi de garder notre alliance avec Dieu. Je disais au départ que Jésus posait cette question et qui nous est posée également ce soir, Pierre, m'aimes-tu ? À 3 reprises. Et Pierre va dire, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Vous savez, notre amour pour Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, une chose que je désire ardemment, c'est habiter dans ta maison. L'amour va dicter notre passion pour Christ. L'amour va dicter nos priorités pour Christ. L'amour va dicter notre attachement pour Christ. L'amour va dicter notre générosité pour Christ. En fait, l'amour dicte tout. Et il est important que nous puissions considérer, mais au vaudou où nous en sommes, quel est mon état de cœur avec Christ ? Est-ce que c'est un ardent amour, celui qui veille sur Israël ? Et le Seigneur désire et il veut veiller sur chacun d'entre nous. Alors on va prier ce soir. Je vous invite juste à courber vos têtes pendant que le groupe vient, s'il vous plaît, si vous pouvez venir. Et ce soir, j'aimerais vraiment dans cette intimité, je crois que Dieu est là, vraiment dans cette intimité avec le Seigneur, lancer un appel à la prière. Vous savez que la parole de Dieu nous dit, il envoie sa parole et il guérit. Le psaume 107 de mémoire. Il envoie sa parole et il guérit. Il envoie sa parole et il guérit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce soir, j'ai à cœur de prier pour les couples. J'ai à cœur de prier pour les familles. On a lu tout à l'heure, et ce n'est pas rien que Dieu, que Jésus a fait ce premier miracle à Cana. C'est ce lieu où il n'y avait plus de vin. Et vous savez, le vin représente la joie. Il ne restait que de l'eau. C'était plat, le calme plat. Et peut-être que dans ta famille, en ce moment, peut-être que c'est le calme pas. Peut-être que dans ton couple en ce moment, c'est difficile d'envisager d'aller à l'autre bord. L'autre bord est totalement inatteignable. Peut-être que dans ta barque, on parlait de la barque ce soir, elle est remplie de flots, mais des flots de la déception, des flots de la tristesse, des flots de la culpabilité, des flots du non-pardon, des flots de l'insécurité, des flots de l'incertitude au niveau de la famille. Et je crois que ce soir, Dieu veut restaurer les familles. Je crois que ce soir, Dieu veut restaurer les couples. Alors simplement, alors que nos têtes sont baissées, on est vraiment en famille, simplement. Si vous vous sentez concerné ce soir, je vous invite juste à, dans l'intimité avec Dieu, à vous approcher sur le devant. Si vous avez des difficultés avec les enfants, si la famille va mal, juste de vous approcher. Si la tempête fait rage en ce moment, Jésus est celui qui calme la tempête. Jésus est la solution. Jésus est celui qui est capable de ramener la paix, de ramener la sérénité, de ramener le repos. Jésus est celui qui guérit. J'aimerais faire un appel également à toutes les personnes qui passent par une tempête, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, à s'approcher du devant également pour prier pour vous. Peut-être que vous vous dites également, Jimmy, ce soir, tu as parlé des repères, mais moi-même, je passe par un temps difficile, je ne suis pas forcément un repère. Mais voilà ce que la parole de Dieu va nous dire. Il va dire que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Dieu n'est pas celui qui brise, au contraire, Dieu est celui qui restaure. Dieu n'est pas celui qui accable. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il envoie sa parole et il guérit. Alors pendant que le groupe va nous amener dans un chant, si vous vous sentez concerné, simplement approchez-vous du devant et saisissez cette parole avec foi ce soir. Ô Dieu puissant, gloire à toi Jésus.